Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'actualité africaine via Africa Press. On a pas mal de choses à voir. Un potentiel économique énorme, mais qui dort un peu. Des tensions politiques assez vives dans certains pays. Et puis l'impact de décisions prises ailleurs. L'idée, c'est d'essayer de décrypter tout ça, de comprendre un peu mieux. Alors, on y va ?
Absolument. Et on va voir ce paradoxe assez frappant, hein. Des milliards de dollars des capitaux africains qui sont là disponibles mais sous-utilisés. Et à côté de ça, bah, des jeux politiques internes et externes qui, eux, redessinent vraiment le paysage. C'est, oui, un tableau très contrasté.
Commençons par ce chiffre alors, qui frappe fort. Plus de 165 milliards de dollars des capitaux locaux africains, surtout des fonds de pension. Ils sont là, mobilisables, mais très peu vont vers des investissements productifs sur le continent. C'est un peu un trésor ignoré, quoi.
C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est quand on compare. Prenez le Ghana et le Nigeria. À eux deux, c'est quasiment 40 milliards de dollars de ces fonds. Mais attention, hein, plus de 90% sont placés en titres d'État. Plus sûr, pense-t-on.
Ah oui, la sécurité avant tout.
Voilà. Et pourtant, regardez l'autre côté de la médaille. En 2024, les Africains ont mis 125 milliards de dollars en crypto-monnaie, dont 65 milliards rien qu'au Nigeria. C'est énorme.
C'est ahurissant comme décalage. Mais alors, comment on explique ça ? Pourquoi on n'investit pas localement, de façon productive, alors qu'on prend des risques énormes sur les cryptos ?
Bah, il y a plusieurs facteurs, en fait. D'abord, les marchés de capitaux locaux sont souvent pas très développés, peu profonds. Ensuite, et c'est crucial, les rendements sur la dette souveraine sont très hauts. Ça attire l'argent, forcément. C'est vu comme sûr, garanti par l'État. Du coup, bah, ça détourne les investissements qui pourraient aller vers le secteur privé, vers les entreprises.
Je vois, l'argent va au plus simple et au plus sûr, même si potentiellement moins productif pour l'économie réelle.
Exactement. Ajoutez à ça l'instabilité macroéconomique par endroit, des règles parfois un peu lourdes, et puis, oui, une certaine frilosité, comment dire, culturelle des élites à investir chez elles. Cet engouement pour la crypto, ça suggère peut-être pas tant un manque de capital qu'une méfiance envers le système classique. Ou la recherche de gains rapides, quoi.
Mais vous avez mentionné Afreximbank, cette banque panafricaine qui, elle, arrive à mobiliser des fonds. Alors c'est juste un problème de structure ou il manque aussi une volonté politique, des incitations pour les autres ?
Excellente remarque. Afreximbank montre que c'est faisable, oui. Mais leur mandat panafricain leur donne peut-être plus de latitude, de levier. Le défi reste structurel pour beaucoup, c'est sûr. Mais la volonté politique, pour créer un environnement vraiment propice, oui, ça manque encore souvent. C'est un facteur clé.
Et cette question économique, bien sûr, elle est complètement liée à la stabilité politique. L'actualité en Côte d'Ivoire le montre bien en ce moment. La course à la présidentielle de 2025, elle est déjà marquée par des décisions assez fortes, non ?
Effectivement. La commission électorale vient de confirmer l'inéligibilité de figures politiques importantes. Tidjane Thiam d'abord, pour une histoire de nationalité réglée trop tard, selon la justice. Mais aussi Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé. À cause de condamnations judiciaires antérieures. Donc, ça change radicalement la donne politique avant même que la campagne ne commence vraiment.
Oui, le PDCI, le parti de Thiam, parle carrément d'élimination politique. Le pouvoir, lui, invoque l'indépendance de la justice. On voit bien la tension monter. Ça va être intéressant de voir comment ça se joue. Et ce n'est pas un cas isolé, cette tension politique. Au Burundi aussi, il y a eu des élections récemment, mais dans un contexte très différent.
Oui, tout à fait. Des législatives et communales qui viennent d'avoir lieu. Mais là, c'était, comment dire, largement dominé par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. L'opposition était très affaiblie, plusieurs figures clés écartées. Et tout ça sur fond de crise économique assez grave. Les observateurs notent en fait un manque de vrai enjeu électoral. Ça consolide le pouvoir en place malgré les difficultés du pays.
D'accord. Et pour ajouter une couche de complexité, il y a toujours l'influence des décisions prises ailleurs, à l'international. L'exemple récent nous vient des États-Unis.
Tout à fait. Une nouvelle interdiction d'entrée sur le territoire américain a été annoncée par l'administration Trump. Elle vise les ressortissants de 12 pays, dont 7 pays africains rissés. Le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Et d'autres, comme le Burundi, la Sierra Leone, le Togo, voient aussi leurs conditions d'entrée se durcir.
La raison officielle, c'est la sécurité, liée à une attaque dans le Colorado. Mais ce qui est curieux, c'est que l'assaillant présumé était d'origine égyptienne, et l'Égypte, elle, n'est pas sur la liste. Qu'est-ce qu'il faut en penser alors ?
Bah, ça pose question, forcément. Sur la cohérence, sur l'efficacité réelle de la mesure, au-delà du signal politique. Surtout en pleine année électorale américaine, ça rappelle un peu le Muslim Ban de 2017 dans l'esprit. Et les conséquences, elles, sont très directes et souvent douloureuses pour les familles, pour les relations entre les pays. Ça montre bien la vulnérabilité de certains pays africains face à ces politiques migratoires décidées unilatéralement ailleurs. Donc si on essaye de résumer un peu, on a d'un côté un continent avec d'immenses ressources financières internes, mais qui a du mal à les utiliser efficacement, faute de mécanismes de stabilité peut-être aussi. Et en parallèle, des jeux politiques internes qui peuvent limiter le jeu démocratique. Et par-dessus ça, des décisions internationales qui viennent encore compliquer les choses.
Oui, une image très contrastée, pleine de tensions et de potentiels qui semblent freiner. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour réfléchir un peu.
Oui, face à tous ces défis internes, externes qui s'entremêlent, comment est-ce que les initiatives panafricaines, celles qui visent à renforcer la coopération régionale ou à mobiliser justement ces ressources propres, comment peuvent-elles vraiment réussir sans un alignement beaucoup plus fort des volontés politiques au niveau national? Et puis, dans un environnement international qui resterait, disons, moins sujet à ces décisions unilatérales, parfois imprévisibles des grandes puissances, c'est la grande question, non?